Donc la dernière fois que j'étais intervenue, je vous avais parlé, j'étais remontée doublement dans le temps, puisque j'avais fait un petit exercice de double mémoire sur le remonter au 19e siècle pour la prise de conscience de l'intérêt des sites préhistoriques et donc en même temps la prise de conscience de l'existence de la préhistoire et d'un très long passé de l'humanité. Cette fois-ci, je vais élargir un petit peu et on va parler du Magdalénien dans la vallée de l'Aveyron. Le Magdalénien, c'est la dernière culture du Paléolithique. Elle se situe environ entre 17 000 et 12 000 avant le présent. Donc vous voyez sur ce tableau, vous avez un peu tout le Paléolithique à partir du Paléo-Moyen, c'est-à-dire le Moustérien et l'homme de Néandertal, et les différentes cultures qui se succèdent depuis environ 40 000 ans. Le Châtel-Péronien, le Régnacien, le Gravettien, le Solutréen, le Badouillien, et en haut, encadré par des petits guillemets rouges, le Magdalénien, donc, qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, le Magdalénien, c'est une culture très répandue, qui couvre à peu près toute l'Europe. Sur la carte, le point rouge au milieu, c'est à peu près la situation de Bruniquel. Donc on est vraiment au plein cœur, en plein cœur du monde magdalénien. Sur la carte, vous voyez qu'en Italie, c'est coloré en rouge, tout simplement parce qu'en Italie, il n'y a pas de magdalénien, il y a une culture contemporaine qu'on appelle l'épigravétien, pour des raisons que je vous expliquerai tout à l'heure. Donc c'est un ensemble très 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 vaste et très très répandu, et avec curieusement une grande unité dans les manifestations de cette culture, que ce soit l'outillage en silex, l'outillage ou les armatures en bois de renne, et l'art. Avec, ce qui est intéressant aussi, un certain nombre de variantes locales. Et évidemment, des variantes dans le temps, puisque vous avez remarqué, ça dure quand même 5000 ans. Alors, le Magdalénien se situe à l'extrême fin de la dernière glaciation. C'est-à-dire, sur le tableau là, c'est tout à fait à droite du tableau, vous avez 20 en milliers d'années avant le présent. Donc, vous décalez quelque part entre 20 et 0. Donc, puisqu'on est entre 17 000 et 10 000. Et donc, on est dans une période qui est encore extrêmement froide, mais qui va, en se réchauffant, sachant que la glaciation se termine vers 10 000 avant le présent, avec l'instauration de nouvelles cultures qui, évidemment, se développent dans un milieu très différent. Alors, dans ce contexte glaciaire, donc un climat très rigoureux, très froid, avec des hivers extrêmement longs et extrêmement froids, des températures très très basses, la vallée de l'Aveyron est particulièrement favorable à l'occupation humaine parce que c'est une vallée qui est très encaissée. Donc vous qui la connaissez, vous voyez en haut, c'est la vue qu'on a depuis Beaune. Au milieu, c'est du côté de Brousse, et en bas, c'est vers Moricou. Donc, des corniches calcaires très hautes, sachant qu'à l'époque, elles étaient encore plus hautes, parce que les pentes à peu près à 45 degrés qu'on voit au pied de ces falaises, à l'époque, elles n'existaient pas. Elles ont été produites par l'érosion des falaises qui surplombaient. Donc, à l'époque, le paysage était encore beaucoup plus contrasté. C'est-à-dire que les falaises étaient plus hautes, et comme il n'y avait rien au pied ou peu, c'était vraiment très, très abrupt. Mais l'intérêt de cette vallée aussi, c'est qu'elle est suffisamment large pour qu'il puisse y avoir une circulation, donc des hommes et aussi des animaux qu'ils chassaient. Donc on voit sur cette carte, vous avez en haut Saint-Antonin, vers le bas, Bruniquel. Donc, j'ai mis Montauban sur la carte à gauche pour que ceux qui ne connaissent pas trop se situent bien. Et vous avez les points de couleur, c'est les principaux sites paléolithiques des environs. et vous avez en rouge les sites, les principaux sites magdaléniens. Donc qui se développent bien le long de cette vallée. Alors d'après les restes d'animaux qu'on trouve dans les sites préhistoriques, on peut reconstituer la faune, l'ensemble des animaux qui vivaient dans la vallée et que les hommes chassaient. Alors l'animal prépondérant, c'est le renne, qui représente généralement 90 à 95% des espèces chassées. C'est l'énorme majorité, tout simplement parce que le renne vit en énorme troupeau. Quand il migre, puisqu'il migre, il circule donc dans la vallée, et en particulier quand il traverse à la nage ou sur les gués, il est particulièrement vulnérable. Et là, à l'époque, ce n'était pas vraiment de la chasse sportive, il fallait se nourrir. Donc on essayait de tuer un maximum d'animaux dans un minimum de temps, avec un minimum de peine, parce qu'il fallait bien manger. Donc le renne, c'était excellent gibier. Autre animal moins bien représenté, mais dont on trouve quelques restes, c'est l'auroch ou le bœuf sauvage. Donc évidemment, il n'y a pas de photo, puisque c'est une espèce éteinte. Mais bon, les peintures de Lascaux nous expliquent très bien à quoi ça ressemblait. Deux autres espèces, peut-être un peu plus surprenantes, le bouquetin et l'isard, qui sont bien représentés, qui sont en fait, je crois, les espèces les plus chassées après le renne. Tout simplement parce que ce sont des espèces dites rupicoles, c'est-à-dire qu'elles ne vivent que dans des milieux rocheux, pierreux. Et donc maintenant, elles sont localisées uniquement en haute montagne, parce que c'est là qu'il y a leur milieu et aussi leur environnement qui doit être froid. Ce ne sont pas des animaux de climat chaud. Donc à l'époque, il n'y avait pas de problème, c'était très froid et il y avait suffisamment de rochers avec toutes ces falaises pour qu'ils s'y plaisent. Donc ils étaient assez abondants et très largement chassés. Il y avait aussi des troupeaux de chevaux sauvages qui ont été chassés. On chassait aussi le cerf, qui était beaucoup moins abondant que le renne, mais quand même présent, contrairement à ce qu'on a cru très longtemps. On a pensé pendant très longtemps qu'il n'y avait pratiquement pas de renne, pas de cerf au Magdalénien, et qu'on en trouvait plutôt plus tard, à l'Asilien. Mais en fait, le cerf est beaucoup plus présent qu'on ne le pensait jusqu'à il y a peu de temps. Il y avait aussi du bison, des troupeaux de bisons qui ont été bien chassés, et un animal bizarre, l'antilope saïga, qui vit encore actuellement, mais en Asie centrale, dans les steppes du Kazakhstan en particulier. Donc un animal de steppe qui ne vit que dans des milieux plutôt plats. Donc dans la vallée ici, c'est pas très étonnant parce qu'elle est suffisamment large pour que les saïgas puissent circuler. Et puis surtout, le climat faisait que bon, ça leur convenait tout à fait. Et les saïgas ont disparu de nos régions en France aux alentours de 15 000, 14 000 ans. Après, il n'y en a plus eu parce que le climat avait commencé plutôt à devenir un peu trop humide, encore froid, mais un peu trop humide pour elles. On rencontre aussi en petite quantité un cousin de l'âne, un asinien qui s'appelle Icus hydrontinus. Donc c'est un dessin, une reconstitution parce qu'il est éteint. Un âne de petite taille qui a été chassé. On trouve aussi des restes de renards communs, mais aussi de renards polaires, parce que vu le climat, il y avait du renard polaire. Des loups qui ont été chassés également. Et puis, on trouve aussi des restes d'oiseaux, parmi lesquels, en plus grande quantité, le lagopède des saules et le harfang des neiges. Alors, le lagopède, c'est toujours plus ou moins un oiseau de chasse, ça se mange toujours. Mais le harfang, on ne mange plus de harfang, mais apparemment, les Magdaléniens trouvaient ça très à leur goût. Et puis, dans l'Aveyron, il y avait aussi des migrations très importantes de saumons. Et les Magdaléniens, surtout à la fin de la période, ont énormément chassé ou pêché plutôt, on ne sait pas trop, le saumon. Voilà donc un peu le décor planté, si vous voulez, dans lequel les Magdaléniens se sont installés dans divers endroits. Alors, on va procéder, ma foi, on va se suivre l'Aveyron sur un kayak, on va dire, par exemple, puisqu'ils avaient certainement des petits bateaux. Donc, on va commencer par l'amont et on va commencer par le site de l'abri de Fontalès à Saint-Antonin. Donc, on distingue un bout de rocher et un trou noir, là, dans la photo. En fait, c'est un site qui est tout près de la route, dans le village de Saint-Antonin, voilà une vue plus rapprochée. Donc ce site a été fouillé pour la première fois en 1865 par Victor Brun, dont on va reparler beaucoup, puisque ça a été le grand précurseur des fouilles préhistoriques dans la vallée de l'Aveyron. Il n'y a pas fouillé très longtemps, parce qu'au bout d'une semaine ou 10 jours, il s'est passé un orage épouvantable qui a noyé tout son chantier sous plusieurs mètres de boue et de cailloux. Et cet écoulement était tellement important qu'on sait par les textes de l'époque qu'il a coupé la voie ferrée. C'est actuellement la route qui longe l'Aveyron, qui à l'époque était une voie ferrée. Et donc ça a même recouvert toute la voie ferrée. Donc à la suite de ça, il a abandonné ses recherches. Et les recherches ont été reprises vers 1935-1936 par Paul Darras, qui était instituteur à Saint-Antonin, et qui a continué à y travailler jusque dans les années 50. Il s'est interrompu uniquement pendant la guerre. Et donc, avec les méthodes de son époque, c'est-à-dire qu'il fouillait seul, et il avait pratiqué une tranchée, qu'on voit ici, donc sur la photo en bas. Paul Darras, c'est le monsieur avec les lunettes et le chapeau. Et le monsieur avec la chemise à côté, ça doit être le directeur des antiquités de l'époque, monsieur Blanc, qui venait visiter son chantier. Et en fait, on connaît le site de Fontalès essentiellement par les travaux de Paul Darras, puisqu'il y a travaillé très longtemps, qu'il y a beaucoup travaillé et très bien, et qu'il y a trouvé énormément de choses. On décompte plus de 6000 objets en silex, parmi lesquels 3600 outils. Ce qui veut dire qu'il y a eu un tri, parce que pour 3600 outils, il devait y avoir au moins 15 ou 20 000 silex. Mais à l'époque, on ne tamisait pas, on ne ramassait pas tout, mais enfin, c'est quand même déjà énorme. Et parmi tous ces outils en silex, il y a des objets caractéristiques qu'on appelle des microlithes géométriques, qu'on voit ici vers le milieu de la photo. Ce sont des toutes petites lamelles de silex, ils sont retouchés. On en verra d'autres, il y a des microlithes dans toutes les cultures du Magdalénien, mais on les distingue les unes des autres. Et ceux-là, c'est les plus caractéristiques, ce qu'on appelle des rectangles, parce que les deux bords sont retouchés et les deux extrémités les plus étroites. Et on trouve aussi des harpons, qui sont l'instrument caractéristique du Magdalénien supérieur. Alors je vous parlerai par la suite surtout des objets en os et en bois de renne, parce que pour les outils en silex, c'est assez compliqué. Dans tout le paléolithique supérieur et le magdalénien, il y a des outils qu'on appelle du fond commun, c'est-à-dire qui sont partout, qu'on trouve dans toutes les cultures, quelles qu'elles soient, et qui ne sont pas trop différenciables les uns des autres, à part quelques particularités, c'est les grattoirs, les burins et les perçoirs. Et il y a d'autres outils, comme les pointes de Téja, comme celles qu'on voit ici tout à fait en bas, qui elles sont caractéristiques du magdalénien supérieur. Et on verra que pour d'autres faces du magdalénien, il y a d'autres types d'outils, mais qui sont toujours des toutes petites choses qui sont caractéristiques d'une période. Et donc, pour comprendre à quelle période se rapporte un ensemble d'outils en silex, c'est une question de proportion entre les grattoirs et les burins, de proportion entre les outils dits du fond commun et les microlithes. Et donc c'est assez aride, donc je vais essayer de vous en faire grâce un peu. Donc à Fontalès, la présence de harpons montre la présence du Magdalénien supérieur, et une datation qui a été faite directement sur un fragment de harpon a donné une date de 13140, plus ou moins 120 ans avant le présent, daté par le carbone 14. Alors ce qui est intéressant avec Fontalès aussi, c'est qu'il n'y a pas d'autre occupation, c'est-à-dire qu'il n'a été habité que au Magdalénien supérieur, jamais avant et jamais après. peut-être à l'asilien, qui est une culture de transition avec le mésolithique qui succède au paléolithique, mais on n'en est pas absolument sûr. Et ce qui est très intéressant à Fontalaise, c'est que cet abri a donné énormément d'objets d'art, des objets ornés. Alors, des objets de parure très intéressants qui ont été étudiés, j'ose pas dire il y a combien de temps, ça commence à faire longtemps, ça fait 20 ans. Et parmi lesquels, vous avez en haut des pans de loch en os gravés. Donc, sur celle de gauche, on distingue sans doute un bison, une tête avec une barbe et des petites cornes. Et sur celui qui est à droite, la tête d'un jeune animal, sans doute un veau, d'auroch ou de bison. Donc c'est des objets qui font 7-8 cm de long. Et aussi il y a une grande quantité de ce qu'on appelle des plaquettes, c'est-à-dire c'est des cailloux, bêtes et méchants, des cailloux, de tailles différentes, ça peut aller depuis la taille de la moitié d'une main jusqu'à un objet qui peut mesurer 1 mètre de long, et qui ont été gravés. Alors soit des motifs non figuratifs, soit très souvent des représentations animales. Là, vous en avez une. On distingue pas très bien sur les photos. C'est à peu près impossible à photographier parce que les surfaces sont très irrégulières. Et donc, on est obligé de faire des relevés avec des calques pour comprendre les dessins qu'il y a dessus. Donc là, une tête d'animal qui est sans doute un cheval, mais enfin, il n'est pas très beau quand même, le cheval. Et donc, il y en a plusieurs dizaines à Fontalaise. Il y en a une cinquantaine. À Fontalaise aussi, cet objet exceptionnel qui est unique. C'est une sorte de cuillère qui est sculptée dans un bois de renne. Donc en haut, vous avez le manche et la partie creuse est cassée. Malheureusement, il en manque un morceau. Et on voit que sur l'extérieur, elle était gravée et décorée d'animaux. En particulier, on voit bien en haut un renne et d'autres animaux qui ont été emportés. Alors une autre chose intéressante qu'on retrouvera sur d'autres sites, toujours sur une plaquette, une représentation qu'on appelle une figure féminine schématique. Donc c'est une représentation féminine qui est réduite à l'essentiel pour les magdaléniens, c'est-à-dire les fesses. Donc il y a juste, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de bras, il n'y a pas de seins, donc c'est représenté, on voit juste les fesses et éventuellement le pubis, qui est souvent très, très marqué, on le verra plus tard. Donc à Fontalaise, il y en a plusieurs qui sont assez caractéristiques. Et donc Fontalaise, Magdalénien supérieur. On continue à descendre la vallée et on change de rive. On va passer en rive droite, donc la grotte de la Magdelaine. Alors cette grotte, c'est très, très extraordinaire parce que c'est une grotte ornée qui ne comporte pas de peinture, mais uniquement des sortes de... C'est des sculptures, c'est du bas-relief sur les parois. Donc là, c'est vrai que le petit pointeur va me manquer parce que c'est pas évident à voir. Donc c'est une petite grotte qui est exposée à la lumière du jour, on voit clair jusqu'au fond, qui est ornée, mais qui a été aussi habité. Il y avait tout un remplissage avec des objets, des restes, comme d'habitude, des restes de cuisine, des outils en silex, etc. Et en l'étudiant, on a pu s'apercevoir qu'autant au Magdalénien, la grotte avait été vidée à plusieurs reprises pour ne pas que les objets abandonnés recouvrent les sculptures qui sont assez près du sol. Donc sur la paroi gauche, vous avez une femme allongée, on la verra plus en détail tout à l'heure, dans une position très, très alanguie et même très, très sensuelle. Un bras replié derrière la tête, les deux jambes pliées, et le pubis est très bien marqué avec la fente vulvaire. Juste à côté, il y a un bison, gravé lui aussi. Et sur la paroi d'en face, juste en face de la femme, il y a une autre femme, allongée aussi, avec également les pieds tournés vers l'entrée. Donc on distingue un peu les deux jambes, le genou et la jambe un peu pliée. On verra le schéma tout à l'heure. Un magnifique cheval. Et tout près de l'entrée, une représentation de femme très schématique, un peu comme celle que je viens de vous montrer pour Fontalet, c'est-à-dire qu'elle est représentée depuis les aisselles jusqu'aux genoux, et pas plus. Donc en détaillant, sur la paroi gauche, vous avez en haut un schéma qui vous permet peut-être de vous repérer un peu mieux pour voir ce qui est représenté. Donc on distingue quand même bien les bras, la tête, les jambes et le triangle pubien très profondément gravé. Et une bisonne, donc on voit très bien qu'elle est représentée avec la queue rabattue sur le flanc, et on voit très bien aussi que la vulve est représentée. Donc on a pensé à un moment que c'était une bisonne en train de mettre bas parce qu'elle est couchée. Mais on peut penser aussi que c'est une bisonne qui est prête à l'accouplement. Il y a toute une interprétation très intéressante sur ces représentations. Donc, sur la paroi d'en face, le petit croquis vous permet aussi peut-être mieux de vous repérer pour voir un peu ce qui est sculpté sur la paroi, qui est très difficile à voir parce que c'est recouvert en plus ça par une coulée de calcite. Alors, vu comme ça, ça a l'air très rugueux, très bizarre, mais quand on les voit de près, surtout celle d'en face, je vous assure qu'on dirait des Modigliani. C'est absolument extraordinaire. Et c'est à peu près impossible à photographier, malheureusement. Donc vous avez aussi un peu plus gros ce cheval magnifique. Et peut-être que vous verrez mieux là. Vous distinguerez mieux cette femme. Donc il y a juste le buste, la vulve avec la fente très marquée, et les cuisses, et elle s'arrête au genou. Alors une interprétation, on a pu proposer que les femmes du côté, que les figures du côté droit, c'est des la femme en particulier, elle est prête à l'accouplement. Et que sur l'autre face, parce que quand on regarde de près, on s'aperçoit qu'elle est probablement enceinte. Donc peut-être sur l'autre face, le résultat. Surtout que le cheval, apparemment, c'est une jument pleine aussi. Donc il y a probablement une interprétation sexuelle ou reproductrice dans ces représentations. Mais bien entendu, on ne peut que faire des suppositions parce qu'on n'a pas le mode d'emploi et on ne l'aura jamais. Donc c'est un site absolument extraordinaire. Alors savoir qu'en contrebas de cette grotte, il y a un habitat, ce qu'on dit un habitat de plein air, c'est-à-dire qui n'est pas protégé ni par une grotte ni par un abri, que, sur lequel on a eu l'occasion de faire un sondage avec Jean ici présent. Et on a trouvé là du matériel qui se rapporte là pas au Magdalénien moyen, mais au Magdalénien supérieur, puisqu'on a trouvé un harpon. Donc les représentations de cette grotte, on n'a pas de date, parce que ça ne peut pas se dater directement, mais par comparaison avec en particulier le site du Roc aux Sorciers dans la Vienne, qui lui est bien daté du Magdalénien moyen, on peut attribuer ces représentations au Magdalénien moyen. On a d'autres exemples, un peu partout en France, en particulier dans la Vienne, oui, des abris avec des bas-reliefs, et ces bas-reliefs se rapportent toujours au Magdalénien moyen. Alors, au Roc aux Sorciers, on voit, il y a toute une frise. Vous voyez, sur la gauche, il y a des animaux, il y a un auroch ou un bison, en dessous, un bouquetin. Sur la droite, on distingue les animaux, on voit très bien les corps et les pattes, et en plein milieu, il y a trois femmes qui sont représentées aussi uniquement des aisselles au genou, sauf celle qui est un peu à gauche, elle a les jambes un peu mieux dessinées. Et on remarque qu'effectivement, les triangles pubiens sont très marqués, que la fente vulvaire est très marquée aussi, et c'est absolument semblable à ce qu'on trouve à la grotte de la Madeleine. Donc par comparaison, on considère que les femmes et les autres figures de la Madeleine sont attribuables au Magdalénien moyen, d'autant plus que tous ces sites ont un autre point commun, c'est qu'ils sont toujours à la lumière du jour. On continue à descendre la vallée, toujours en rive droite, et on arrive à la grotte du Courbet. alors qui a été complètement dévasté depuis un siècle par tout un tas de fouilles, farfouilles, pillages. Mais c'était probablement le site magdalénien le plus important et le plus riche de toute la vallée de l'Aveyron. Les premières fouilles ont eu lieu vers 1860, j'avais eu l'occasion de vous en parler il y a quelque temps. Et on y a trouvé donc des outils en silex classique, des harpons donc, qui montrent bien une occupation au magdalénien supérieur. Donc tous ces objets très riches et très abondants. Mais cette grotte a la principale particularité, c'est qu'elle renforme énormément d'objets d'art qui sont absolument remarquables. On a ici en particulier, sur la gauche, des propulseurs assagués qui sont sculptés avec, à l'extrémité qui porte le crochet, qui sont sculptés en forme de tête de cheval, qui sont des objets absolument magnifiques. On y a redécouvert récemment aussi un petit os gravé où on distingue deux têtes d'antilope saïga. Et puis d'autres os gravés, donc vous pouvez admirer quand même la qualité des représentations. Donc en bas à gauche, c'est des têtes de chevaux qui se suivent. Au-dessus, vous avez trois rennes et un bouquetin. Et en haut, je n'ai pas la photo, je n'ai qu'un dessin qui a été publié en 1864 et qui a une très grande importance puisque c'était la première fois qu'on découvrait un os avec un renne représenté dessus. Donc ça a été la preuve de l'authenticité de l'art préhistorique, la preuve de l'existence d'un homme préhistorique qui donc vivait à une époque où il a vu des rennes. Et comme il y a plus de rennes chez nous depuis très longtemps, ça prouvait bien que cet art préhistorique était très ancien et daté d'une époque où il y avait encore des rennes dans le coin. Donc c'est un objet absolument exceptionnel. Alors je vous ai dit qu'il y avait du magdalénien supérieur parce qu'il y a des harpons, mais les objets précédents, en particulier les propulseurs, se rapportent au magdalénien moyen. Parce que les propulseurs assagués, on les rencontre surtout dans le magdalénien moyen, et au magdalénien supérieur, il n'y en a plus. C'est-à-dire qu'ils avaient encore certainement des propulseurs, mais qui ne les décoraient plus comme on le faisait. Et on a aussi ces représentations d'antilope saïga, qui vivaient plus particulièrement au magdalénien moyen, et qui ont disparu au début du magdalénien supérieur. Donc à la grotte du Courbet, on avait toute une occupation qui a duré à la fois dans le magdalénien supérieur et dans le magdalénien moyen. Et lors des fouilles que j'ai pu y faire, on a eu le grand bonheur, n'est-ce pas Jean, de découvrir cette statuette qui était cachée sous un grand rocher qui est à l'entrée de la grotte. Donc vous voyez l'échelle par rapport à l'allumette. Donc c'est une statuette en rond de bosse, une statuette qui mesure à 2 cm de haut et qui représente une femme. Donc celle-là aussi a des fesses très proéminentes, mais au moins elle est complète. Elle a une tête, elle a des seins, elle a le ventre, elle a des jambes et des pieds. Elle est moins réduite à l'essentiel que celles qui sont un peu plus tardives. Donc c'est actuellement la plus petite statuette de femme qu'on connaisse au monde. Et elle est fort bien datée puisqu'on a une date de 13400 avant le présent pour cet objet. Alors les abris du château à Bruniquel, donc on est à 2 km en aval de la grotte du Courbet. On retraverse l'Aveyron, on va se retrouver en rive gauche. Et donc sur la photo, on voit très bien le château sur sa falaise et les abris. On va voir ça un peu mieux. Alors l'intérêt des abris du château, c'est qu'il y a 4 sites énormes qui se touchent pratiquement puisqu'ils se succèdent sur une longueur de 250 mètres. Et ça, c'est aussi absolument unique en France. On ne connaît pas autant de sites magdaléniens aussi proches les uns des autres. On a pu les dater et donc... ce qui est intéressant, c'est qu'il couvre toute la culture magdalénienne, depuis le magdalénien inférieur qui vient juste d'être défini, jusqu'au magdalénien supérieur qu'on connaissait depuis un moment. Donc vous avez ici la disposition des quatre abris principaux, parce qu'en fait il y en a deux autres qu'on soupçonne mais qui n'ont pas été fouillés. Alors on continue notre promenade, donc d'amont en aval, et le premier en amont, c'est l'abri plantade. Dans l'occupation, couvre le magdalénien moyen, le magdalénien supérieur et probablement aussi un petit peu le magdalénien inférieur, ce que je suis en train d'essayer de démontrer, que je publierai bientôt. Les premières fouilles ont été faites en 1864 par Victor Brun, dont je vous ai déjà parlé pour Fontalès. Et en fait, c'est là qu'il a commencé ses travaux, c'est à Plantade et à l'abri voisin qui s'appelle La Faille. Et donc, bien qu'à l'époque, la préhistoire en tant que discipline scientifique n'existait pas, il a travaillé très bien en distinguant différents niveaux, parce qu'il avait probablement une formation de géologue. Donc, il distingue très bien une couche noire supérieure, qui mesure à peu près un bon mètre d'épaisseur, et même probablement plus. Et d'après ce qu'il nous dit, c'était probablement une succession de petits niveaux de 10 à 12 cm, mais qui n'a pas traité séparément. Et dans ces niveaux, il a rencontré évidemment les outils en silex, classiques, banals, des grattoirs, des burins, des perçoirs, des lamellas d'eau, et des harpons. Donc, à la base de la couche noire supérieure, des harpons à un rang de barbelure, un petit groupe de sept qui était dans un trou recouvert d'une pierre plate, nous dit-il. Et un peu plus haut, des harpons à deux rangs de barbelure. Et on sait généralement que les harpons à un rang apparaissent avant les harpons à deux rangs, bien qu'ici, dans la vallée, on les trouve toujours mélangés. Donc, on a la preuve là qu'on a du magdalénien supérieur, et on a pu faire des datations sur cette couche noire supérieure, et on a une datation pour la partie inférieure la plus ancienne aux alentours de 14 000 et la plus récente aux alentours de 12 700. Donc on a des harpons dès 14 000 ans dans la vallée de l'Aveyron, ce qui paraît très ancien à certains. En dessous de la couche noire supérieure, il a trouvé une couche dite stérile, un limon stérile qui était assez épais, et en dessous une couche noire inférieure qu'il caractérise par l'absence de harpons. Mais dans cette couche noire inférieure, on trouve parmi les outils en silex des petits objets qui sont sur la rangée inférieure, des objets triangulaires qu'on appelle des lamelles scalènes, donc des tout petits objets, vous voyez l'échelle, et qui sont absolument caractéristiques du magdalénien moyen. Il n'y en a plus après, il n'y en a pas avant. Et aussi, dans les objets en os et en bois de renne, des armes de chasse, des pointes de chasse, qu'on appelle les toutes petites là, que vous voyez, c'est les pointes de Lussac-Angle, qui sont caractéristiques du magdalénien moyen, absolument typiques. Et à droite, ce qu'on appelle une baguette demi-ronde, là c'est ces deux objets que j'ai réussi à recoller parce qu'ils raccordent, et aussi qu'on ne rencontre que dans le magdalénien moyen, ça perdure un petit peu légèrement dans le magdalénien supérieur. Donc ces objets en fait, ils ont une section en demi-cercle, la partie plane est souvent munie de stries ou de rainures comme on voit ici, et ces objets étaient collés deux par deux, on le sait parce qu'on en a trouvé, qui étaient collés deux par deux, et on pense qu'on les fabriquait comme ça pour éviter pour que l'objet soit plus solide et pour éviter qu'il se déforme, c'est-à-dire qu'il reprenne sa courbure naturelle du bois de renne, ce qui était évidemment pas très bon pour tirer, parce que tirer avec un objet courbe, c'est un peu comme un fusil à tirer dans les coins, ça marche pas bien. Donc ils essayaient de redresser ça pour que ça soit le plus droit possible. Donc des objets absolument caractéristiques du magdalénien moyen, ce qui prouve bien qu'il y avait du magdalénien moyen à Plantade. Mais on a une date très ancienne, 15 890, qui se rapporte plutôt à un magdalénien inférieur tel qu'il existe dans un site voisin, et aussi quelques objets qui n'avaient pas été repérés, mais sur lesquels je suis en train de travailler, et qui démontre qu'il y avait eu aussi une petite occupation du Magdalénien inférieur. Alors sur ce site aussi, on a des objets très intéressants, des beaux objets d'art. Cet objet extraordinaire qui est probablement un fût de propulseur. Alors ce qui est un peu râlant, c'est qu'il manque l'animal. On n'a que les quatre sabots. Donc vous voyez au milieu un agrandissement des quatre sabots. Donc c'est un animal qui est représenté perché sur un rocher avec les pattes de devant plus basses que les pattes de derrière. Et c'est absolument identique à cet objet qui est représenté à côté, qui est un propulseur, dit le fan aux oiseaux, qui vient de la grotte du Mas d'Asile, où on voit un petit animal dans la même position. Donc bien que l'objet soit cassé, il est très probable que ça soit un objet de ce type. Ce qui montre des relations avec les Pyrénées. On a trouvé aussi un certain nombre d'objets ornés, donc ça peut être des armatures de sagaies qui peuvent être ornées de croisillons, de zigzags, de divers motifs géométriques, et des objets dont on ne sait pas trop à quoi ils servent, des objets ornés, comme celui-là que vous avez à gauche. Au-dessus, c'est un lissoir en os, c'est un objet en os qui est usé au bout et qui servait à aplatir les coutures. Parce qu'on trouve énormément, dans les niveaux magdaléniens, des aiguilles à coudre, en os ou en bois de renne. Les plus petites que je connaisse ont moins de 2 cm de long, pour moins de 2 mm de large. Et pourtant, elles sont percées d'un trou. Et il y en a à peu près 150, de toutes les tailles. Donc, il y avait tout un artisanat de la couture, et donc les lissoirs, ça servait à aplatir ces coutures. Et puis vous avez à droite un poinçon qui est sculpté en forme de sabot d'animal, qui est absolument magnifique, qui servait certainement aussi à la couture, pour agrandir les trous dans le cuir pour passer les aiguilles. On rencontre aussi très souvent dans ces sites, il y en a à Fontalès, au Courbet aussi, des objets de parure. Les plus nombreux, ce sont des dents d'animaux percées. Donc vous avez ici, ce sont des dents de rennes, qui ont été percées et qui ont la particularité d'être couvertes d'ocre rouge. Et on trouve aussi des canines de renard, des canines de cerf, des incisives de bovidés, des incisives de cerf, toutes sortes de dents d'animaux. Et puis aussi quelques perles façonnées dans des matériaux divers. On a plantade aussi ce qu'on appelle une rondelle. Vous voyez, c'est un objet circulaire avec une perforation au milieu qui est découpée généralement dans une omoplate de renne. On le sait parce qu'on a un site dans les Pyrénées à Istüritz où il y a tout un atelier de fabrication de rondelles. Donc on a toutes les étapes de la fabrication. Donc on sait comment ils faisaient. Donc c'est des objets de parure, c'est extrêmement fragile. On ne sait pas exactement à quoi ça servait. Donc il y en a une ici, on en trouve plusieurs dans les Pyrénées. Surtout dans les Pyrénées et quelques-unes aussi en Périgord. Et c'est aussi caractéristique du Magdalénien moyen. Juste à côté de l'abri plantade, à une centaine de mètres en aval, il y a l'abri qu'on appelle la faille. La faille, on n'a pas la totalité du remplissage. Parce que à plantade, comme à la faille, au XIXe siècle, il y a une partie du remplissage sous l'abri sous roche qui a été extrait pour construire des cabanes. Donc s'il y avait des choses dans les sédiments qui ont été enlevés, évidemment c'est perdu. Et à plantade, on démarre directement sur le Magdalénien supérieur à Arpon. À la faille, c'est un peu plus compliqué. On sait qu'il y a du Magdalénien moyen parce que on a des lamelles scalènes comme à Plantade, donc c'est un marqueur du Magdalénien moyen. Et puis ce petit objet qui est sur la droite, qui est un objet sculpté en rond de bosse. Donc ces objets sculptés en rond de bosse, on les rencontre qu'au Magdalénien moyen, on ne les trouve plus au Magdalénien supérieur. Donc quand on en trouve, on est à peu près certain qu'on est dans le Magdalénien moyen. On a aussi un propulseur avec une tête de cheval sculptée, absolument identique à ceux que je vous ai montrés à la grotte du Courbet. Et puis, ces objets dont on ignore totalement l'usage, qu'on appelle des bâtons percés. Ce sont des objets en bois de renne, avec une extrémité élargie, percée d'un trou. Ils sont très souvent cassés au niveau du trou. Donc, Et au niveau du trou, c'est très souvent poli. Et on ne sait absolument pas à quoi ça sert. Il y a eu 63 ou 64 propositions d'utilisation proposées, mais on ne sait pas quelle est la bonne. Et on ne sait même pas si on a une bonne parmi les 64 ou 65. Mais c'est un objet assez fréquent dans tout le paléolithique supérieur, pas seulement pendant le Magdalénien. Donc ceux-là sont ornés, ils ne sont pas tous ornés. Celui-là sont ornés à la faille, il y en a très joli. Celui en haut, vous voyez, il y a une tête de cheval avec les oreilles pointées vers l'avant. En dessous, c'est un félin qui fait tout le tour de l'objet. Alors celui-là est intéressant parce que la représentation du félin sur un bâton percé, on trouve des comparaisons, là, non pas dans les Pyrénées, mais à Laugerie Basse, en Dordogne, en Périgord. Ce qui montre bien qu'il y avait des relations, enfin ce qui est normal, puisque, après tout, la vallée de l'Aveyron, c'est à mi-chemin entre le Périgord et les Pyrénées. Et c'est sur une voie de passage, donc les gens circulaient par là. Donc c'est évident. Et on a trouvé aussi une sagaie, qui est, celle-là est décorée non pas de motifs géométriques, mais d'un petit animal, qu'on distingue assez bien sur la photo. Alors, on est à peu près certain qu'il y a eu quand même du Magdalénien supérieur à la faille, parce qu'il y a un objet sur lequel est représenté un harpon. Alors, on distingue sur la droite des crochets arrondis du harpon et la base un peu renflée vers le milieu de l'objet. J'ai pas le relevé, c'est dommage, et je peux pas vous le détailler. Donc on est à peu près sûr qu'il y a eu du Magdalénien supérieur aussi à la faille, mais sans doute moins marqué qu'à Plantade. Ça devait être une occupation moins importante. Et quand on observe les objets en bois de Rennes, en particulier les armatures, il y a dedans des objets qui sont à peu près interchangeables avec ceux du site voisin de Gandil, qui est lui exclusivement dans le Magdalénien inférieur. Donc il est très probable qu'il y ait eu aussi les occupations des trois faces du Magdalénien sur ce site. Mais le plus important, le plus intéressant, le plus extraordinaire qui provient de ce site, c'est que Victor Brun y a trouvé une sépulture. Donc une femme qui devait être âgée d'environ entre 20 et 25 ans au moment de sa mort, et un enfant, 2-3 ans. On ne sait pas du tout s'il y avait un lien de parenté entre la femme et l'enfant. On ne sait même pas s'ils étaient dans la même fosse. Parce que les fouilles à l'époque, ce n'était pas aussi soigné qu'on les fait maintenant. Mais cette femme était relativement complète, donc vous avez ici une photo du crâne qui a été prise à l'époque. Et donc cette dame a eu un destin assez tragique. Elle est morte, oui, maintenant elle serait morte de toute façon. Mais quand Victor Brun l'a fait connaître, en expliquant qu'elle était... À l'époque, on ne parlait pas encore de Magdalénien, ça n'existait pas, ce n'était pas encore connu, c'était trop tôt, mais qu'elle avait été trouvée dans un habitat préhistorique avec des outils en silex, des objets en bois de Rennes, etc. C'était trop tôt. Il a montré des photos du crâne, pas de celui-là malheureusement, d'un autre crâne qu'il avait trouvé juste à côté. Il a envoyé ça à Paris, à la Société d'anthropologie de Paris, où deux savants qui s'appelaient M. Paul Broca et M. Ça y est, j'ai mangé son nom, je vais le retrouver, Prunerbet, ont décrété que ça n'était pas paléolithique. Ils ont eu une phrase absolument extraordinaire. Il est impossible qu'une tête avec des traits aussi purs et aussi doux ait pu appartenir à la race brutale des sauvages. Donc cette pauvre femme a été enterrée pour la deuxième fois. Et ce n'est que dans les années 1950 que Marcel Guéret, vous voyez sur la photo, avec les lunettes, ils ont tous les deux des lunettes, celui qui est en arrière-plan, a redécouvert ce squelette, l'a réétudié et a démontré qu'il était bien paléolithique et magdalénien. Et à cette occasion, il avait fait venir l'abbé Breuil, qu'on voit ici avec la cigarette au bec, qui examine le squelette dans les vitrines du Muséum d'histoire naturelle de Montauban. Donc ça n'est qu'à cette époque-là que cette dame a été réhabilitée. Elle est bien magdalénienne. Donc voilà son état actuel après re-restauration. Donc le blanc, c'est des restaurations en plâtre qui ne sont pas très exactes, mais enfin bon. Et donc ce squelette a été daté directement. Et donc on a une date de 15 290, plus ou moins 150 avant le présent, ce qui est tout à fait cohérent avec le magdalénien moyen, donc il n'y a pas de problème. Les outils ou les objets que je vous ai montrés, cette dame a pu les utiliser. Donc ça, c'est la grande... Alors, il faut savoir aussi que ce squelette, c'est le squelette magdalénien le plus complet, le mieux conservé et le mieux daté du magdalénien français. Donc, quand même intéressant. À quelques 100 mètres ou 150 mètres en aval de la faille se trouve l'abri Gandil, qui est maintenant le site de référence pour ce qu'on appelle le magdalénien inférieur français, parce qu'avant qu'on ait fouillé ce site, ça n'existait pas. Pas en France, en tout cas, le magdalénien inférieur. Donc les premières fouilles ont été effectuées en 1928 par Marc Chaillot. Au XIXe siècle, personne n'avait repéré ce site et donc il n'avait pas été fouillé. Et quand Marc Chaillot y est intervenu, il était complet, le remplissage était complet, il n'avait pas été amputé comme Planta de la Faille par des constructions du XIXe siècle. Donc il y a fouillé en 1929, il y a trouvé, il a repéré toute une série de niveaux, mais pas très détaillés, il a récolté des outils en silex, environ 2000, ce qui était pas mal, et plusieurs centaines d'objets en os et en bois de renne. Et là, il était un peu perdu parce qu'il n'y avait aucun harpon et aucun objet avec des représentations figuratives. Donc il était très clair que ce site n'était absolument pas contemporain de ses deux voisins. Mais on ne pouvait pas en dire plus. Et c'est en 1987 que j'ai repris les fouilles parce qu'il y a eu des travaux un peu clandestins. Et donc, il fallait un peu s'occuper de ce site pour pas qu'il soit complètement massacré. Donc, c'est vrai que les fouilles qu'on faisait à cette époque, dans les années 90, et à plus forte raison, ce qu'on fait maintenant, ça prend beaucoup plus de temps parce qu'on travaille rarement à la pioche, on travaille encore à la pioche quand même, et quelquefois à la pelle mécanique, quand il y a des mètres cubes de sédiments stériles à enlever, on ne s'embête pas à enlever ça à la cuillère, on fait ça un peu plus rapidement. Et donc, cette fouille qui a duré 10 ans, 9 campagnes de fouilles en réalité, a permis d'établir une stratigraphie très détaillée et d'obtenir toute une série de datations. Donc on peut distinguer un ensemble de niveaux supérieurs qui sont marqués ici en jaune sur le dessin et des niveaux inférieurs qui sont ici au niveau profond marqués en rouge. Les dernières fouilles, on a sorti environ 12 000 objets en silex, 3 000 dans les niveaux supérieurs et 9 000 dans les trois couches inférieures. Il faut dire que là, on tamisait tout dans un tamis avec une maille de 3 mm. Donc il n'y a que les objets plus petits que 3 mm qui ont pu nous échapper, et encore. Donc c'est sûr que c'est pour ça que ça donne une bonne base de départ pour étudier tous ces outils et en tirer des conclusions sur la façon dont ils sont taillés, les proportions d'outils les uns par rapport aux autres. Alors les plus intéressants, en fait, c'est les niveaux inférieurs qu'on appelle, il y a la couche 20, 23 et 25. Donc la couche 23 et 25 ont été étudiées en même temps comme un tout, parce que les datations se recoupent, elles sont contemporaines et par endroits elles se mélangeaient. Alors elles se caractérisent par la présence très importante de ce qu'on appelle des micro-lamelles à dos. Vous voyez en bas, ce sont des objets minuscules qui font 1,5 cm, 2 cm de long. Ce sont des outils parce qu'ils ont été retouchés, retaillés sur les bords. Et on sait que les gens qui les ont taillés voulaient obtenir cette forme d'objet et cette taille d'objet. Ils ont préparé leur nucléus de façon à obtenir des objets de cette forme et de cette taille. Et c'est à partir de la façon dont ils ont préparé leur nucléus, débité leur nucléus et obtenu ces objets qu'on caractérise le magdalénien inférieur qu'on a retrouvé par la suite sur d'autres sites où il y avait des objets qu'on ne savait pas identifier, dont on ne connaissait rien. Dans la couche 20, un peu au-dessus, on a encore des lamellado qui sont un peu plus grandes, mais qui elles aussi sont ce qu'on appelle normées, c'est-à-dire qu'ils ont délibérément choisi la dimension des objets qu'ils voulaient obtenir et qu'ils ont donc travaillé leur silex en conséquence. Et dans cette couche 20, on trouve aussi des objets très particuliers qui sont ce qu'on appelle des pointes à cran. Donc ce sont des pointes de chasse qui, elles, sont en silex et non pas en bois de renne. Donc c'est des objets assez petits. Et c'est assez rare, on en connaît quelques-uns dans quelques autres sites, un en Gironde et un autre dans le Gard. Mais ce sont des objets qui restent extrêmement, extrêmement rares et qui sont cantonnés au magdalénien inférieur. Donc le magdalénien inférieur, il est ces niveaux-là se développent entre deux périodes, on a deux dates. Le plus ancien, c'est 17480 et la couche 20, c'est 16700. Donc pendant cette période-là, c'est ce qu'on appelle le magdalénien inférieur. Alors, dans cette période-là, il y a très peu d'objets en os ou en bois de renne. On a quelques armatures de saguets. On en a, je sais pas, une quinzaine qui sont toutes petites, très moches, presque rien, des débris. Mais il y a quelques objets de parure quand même. Donc on a une belle pendeloque découpée dans une mâchoire d'animal. Toujours ces dents d'animaux percées qui sont assez courantes. Et on a trouvé aussi une très jolie pendeloque en hématite. Donc c'est un oxyde de fer de couleur rouge. Qui porte des traces d'abrasion. Il a dû sans doute être frotté sur une surface rugueuse pour obtenir une poudre colorante. Et il porte en haut une très jolie perforation, qui veut dire qu'il était porté en pendentif ou en collier. Dans les niveaux inférieurs aussi, on a trouvé des plaquettes gravées, comme celle dont je vous ai parlé à Fontalès. Il y en a eu une ou deux aussi à la grotte du Courbet, mais très peu. Alors celle-ci, c'est la plus grande. C'est un objet qui a à peu près la surface ornée est grande à peu près comme une feuille de format A4, une feuille de papier normal. Donc c'est couvert de tout un écheveau de gravures très difficile à lire. Donc, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une peinture. Alors en vert, j'ai retracé la silhouette d'un animal qui est un cerf, qui est très effacé et la façon dont l'image est orientée, il est la tête en bas. Donc la partie que vous voyez en haut, c'est son arrière-train. Et il y a les bois qui se perdent là sur la gauche. Par-dessus a été gravé un renne en rouge ici, qu'on voit très bien, et un auroch en bleu qui n'a jamais eu de tête. Il y a aussi un oiseau, une oie sans doute, des ramures, des têtes, trois têtes humaines. Donc tout ça gravé sur un bloc. Et donc ça, dans un des niveaux les plus anciens. Alors sur le site, on a trouvé 19 plaquettes gravées comme ça, dont certaines n'ont pas de représentation animale, c'est quelquefois uniquement du nom figuratif. Dans la couche 20, aussi une autre très jolie plaquette, c'est grand à peu près comme la main, donc où on distingue très bien la tête d'une biche avec sa grande oreille. Et probablement derrière une deuxième. Et tête bêche, une tête de cheval, qu'on ne distingue pas très bien, parce que là, elle est à l'envers, avec l'oreille vers le bas. Donc quand même, plusieurs animaux représentés sur cette plaque. Les niveaux supérieurs, donc c'est ceux qui avaient été fouillés dans les années 30, par mon prédécesseur, et qu'on a pu refouiller, mais sur des petites surfaces. Donc nous n'y avons pas trouvé, on y a quand même trouvé 3000 silex. Mais c'est moins important que pour les niveaux inférieurs. Et donc, on y trouve des lamelles à dos denticulées, ces objets en forme de scie. Et puis, on commence à trouver ces objets qui vont se développer au Magdalénien moyen, qui sont des lamelles scalènes que vous avez en bas. Alors, tous ces petits objets, en fait, étaient fixés avec de la résine ou avec de la colle sur des tiges en bois ou en bois de renne. Et c'était en fait des armatures de chasse. Comme le silex est extrêmement tranchant, ça permettait de bien pénétrer dans le corps de l'animal. Et c'est à ça que ça servait. Donc on les insérait en série par 2, 3, 4, 5 pour permettre aux armes de bien pénétrer dans les animaux chassés. Mais évidemment, c'est trop petit pour s'en servir au bout du doigt. Alors dans les niveaux supérieurs, c'est mon prédécesseur surtout qui a trouvé énormément d'objets en bois de renne, je vous ai dit plus de 300. Il y a environ 150 sagaies, donc certaines sont ornées comme celles qu'on voit à droite. Donc ces sagaies aussi, ça peut avoir des dimensions très variées. Les plus petites font 5 à 6 cm. Et la plus grande, là, qui est représentée là, même elle fait plus de 20 cm et pourtant elle est cassée. Donc c'était un objet absolument énorme. Donc probablement ce n'était pas fait pour chasser le même gibier. Et on trouve aussi ces fameux bâtons percés, donc dont un, celui qui est en bas, là, le trou n'a jamais été terminé, il n'est pas complètement percé. Et dans les niveaux supérieurs aussi, alors ça c'est dans le niveau le plus récent, daté d'environ 16 000 ans, encore une plaquette gravée, où on voit très bien au milieu d'un enchevêtrement de petits tracés une tête de bouquetin avec sa grande corne. Donc la présence aussi de toutes ces plaquettes depuis sur 1500 ans quand même d'occupation. Donc ça veut dire aussi qu'ils ne venaient pas tout le temps. Ils sont venus à 12 ou 13 reprises en 1500 ans. Ça fait une moyenne d'une fois tous les 100 ans. Mais on est incapable de dire s'ils venaient une fois tous les 100 ans ou s'ils venaient 3 ans d'affilée et ils restaient sans venir pendant 200 ans, on ne sait pas. Mais plutôt assez régulièrement, mais pas très fréquemment. Donc c'est intéressant quand même, c'est que sur ces 1500 ans, on voit sur ces objets gravés qu'il y en a sur toute la durée de l'occupation, qui se ressemblent beaucoup, que les gravures sont identiques dans le style et dans la façon de faire. Donc il y a vraiment toute une continuité culturelle sur une période aussi longue de 1500 ans. En continuant à descendre, on arrive sur l'abri Montastruc. Voilà, alors le monsieur qui donne l'échelle là est dans la salle. Donc c'est le quatrième et dernier en aval des abris du château, c'est un site double. Donc la partie sombre là, c'est une petite grotte qui a été fouillée, et la partie plus claire, c'est un abri qui est presque complètement occupé actuellement par le talus de la route, autrefois voie ferrée. Donc ce site a été fouillé pour la première fois par un certain Pécadeau de Lille en 1866, qui a fait des fouilles très rapides comme à l'époque, mais qui a trouvé une quantité énorme d'objets, donc aussi des outils en silex, mais aussi il signale quelques objets en cristal de roche, ce qui est assez rare. Et puis aussi de grandes quantités d'objets en bois de renne et des objets d'art, on y reviendra. Les fouilles ont été reprises en 1946 et 47 par Bernard Bétira, qui est un amateur assureur à Montauban, qui a publié en 1952 ses travaux, qui a fait de très belles découvertes. Il a recommencé 10 ans plus tard, il a recommencé en 56 et 57. On le voit ici sur son chantier, sans doute en 56. Et là, malheureusement, il n'a jamais publié le résultat de ses travaux de 1956. On les connaît uniquement par les travaux préparatoires d'un article qu'il devait faire, mais qu'il n'a jamais publié parce qu'il est mort prématurément en 58. C'est la coupe obtenue par Bétirac, c'est très important et très intéressant. J'ai reporté ici en rouge ce qu'il appelle la couche 2, qui se rapporte au Magdalénien moyen, c'est très important, vous allez comprendre pourquoi après. Et en bleu, le Magdalénien supérieur, donc là où il y avait des harpons qui sont absolument caractéristiques. Il y a au-dessus une petite couche 5, ici en gris, qui est importante parce que c'est une couche d'Asilien. Donc l'Asilien, c'est la culture qui succède immédiatement au Magdalénien. C'est une culture encore de chasseurs-cueilleurs qui vivaient exactement comme au Magdalénien, sauf qu'ils vivaient dans un environnement qui était semblable au nôtre, puisque la glaciation était terminée, le climat était réchauffé, et donc leur gibier principal n'était plus le renne parce qu'il n'y en avait plus, mais le cerf. Et donc il y a un niveau d'Asilien, et c'est un des rares endroits dans la vallée de l'Aveyron où on pense qu'il y a eu de l'Asilien, c'est pour ça que c'est important. Donc tout à fait caractéristique du Magdalénien supérieur, c'est harpon, à un rang et à deux rangs, et puis ces microlithes dits géométriques, comme les rectangles, etc., comme ceux qu'on a un peu qu'on a vu à Fontalès. Mais les choses les plus importantes qu'a trouvé Pecado, et qui se rapportent certainement à la couche 2 au Magdalénien moyen, puisque, comme je vous l'ai dit, ce sont des ronds de bosse, ce sont ces objets extraordinaires, voilà, tels qu'il les a publiés en 1868. Donc il y a deux rennes sculptées en ivoire de mammouth, et un propulseur en forme de mammouth qui est sculpté, lui, en bois de renne. Donc voilà des photos de ces objets qui sont conservés à Londres, au British Museum. Alors en fait, les deux rennes, c'est un même objet qui a été cassé. C'est l'abbé Breuil qui a eu l'idée de raccorder les morceaux. Donc c'est sculpté dans la pointe d'une défense de mammouth. Et c'est une vraie ronde de bosse, c'est-à-dire tout est sculpté. Les deux faces, le dessus, le dessous, on voit très bien sur le dessous de l'objet, les pattes des rennes repliées. Donc c'est pour ça qu'on pense qu'ils sont représentés en train de nager pour traverser une rivière, ce qui justifie la position de la tête relevée et donc la facilité pour l'artiste de mettre les bois collés sur le dos. Il fallait qu'ils jouent avec leur support, parce que c'était assez compliqué. Et en dessous, c'est extraordinaire propulseur en forme de mammouth, donc c'est sculpté dans du bois de renne. Donc il a une drôle de tête, le mammouth, mais bon, il a la trompe est collée contre les pattes de devant, et il a les défenses collées contre ce qui était le fût du propulseur qui est cassé. Et il avait probablement, on voit le petit rond noir, c'est l'œil, qui était sans doute incrusté d'une matière colorée, comme on a vu tout à l'heure sur le propulseur du Mas d'Asile. L'animal avait aussi un œil creusé et incrusté certainement d'une matière colorante. Alors cet objet aussi, il est très émouvant, parce que le crochet du propulseur, c'était la queue du mammouth, ouais, sur l'arrière-train, et on voit bien que la queue est cassée. Et à l'époque, le propriétaire, sans doute, a recreusé dans le dos de l'objet et y a remis un crochet. Donc c'est le plus ancien exemple connu de rafistolage. Donc c'est des objets absolument exceptionnels et tout à fait caractéristiques du Magdalénien moyen. Les propulseurs mammouth, on en connaît deux. Il y a celui-là et un qui provient d'un site dans l'Aude, à Canecaude. Il y a d'autres objets intéressants, moins spectaculaires, mais intéressants aussi. Par exemple, cette plaquette gravée. Alors, à Montastruc, il y avait aussi énormément de plaquettes. Il y en a une cinquantaine qui ont été publiées, mais il y en a au moins le double. Et il y en a beaucoup qui portent des représentations d'animaux. Donc là, ici, c'est un bouquetin en train de brouter, manifestement. Il y en a d'autres qui portent des rennes, des cerfs, des chevaux. Et puis cet objet aussi, c'est une côte animale qui est gravée d'une figurine humaine. Donc, parce que c'est une fillette, parce qu'on voit très bien que il y a le sexe qui est bien figuré. Et elle a sur le devant du corps une rangée de cercles. Alors on ne sait pas ce que c'est, on appelle ça des boutons, mais vu qu'elle est nue, des boutons, on ne sait pas. C'est très énigmatique. Et donc c'est une des rares représentations féminines aussi où on voit une femme, apparemment c'est une fillette, très, très svelte. Quand c'est des femmes mûres, elles sont toujours représentées très, très abondantes, on va dire. Donc des objets très intéressants. Et puis c'est le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, c'est Bernard Bétirac qui l'a trouvé dans la couche 4 aussi, couche 2, pardon. C'est cette baguette sculptée dans un bois de Rennes qui représente un cheval sautant l'obstacle. J'ai eu le bonheur d'avoir cet objet entre les mains. C'est vrai que chaque détail est absolument fabuleux, c'est un chef-d'œuvre absolu. Donc c'est vrai que l'abri Montastruc est extrêmement célèbre et très réputé à juste titre parce que c'est là qu'on y a trouvé les œuvres d'art magdaléniennes parmi les plus belles qu'on connaisse. On en connaît rarement d'autres plus belles. On va continuer notre balade, terminer notre balade sur un site très peu connu, très peu spectaculaire, vous voyez, c'est plutôt triste. C'est le site de Mirande, qui est sur la commune de Nègrepelisse. Donc là, on est à 2 km à peu près en aval de Montricou. Et dans les années 30, on avait repéré dans les champs des quantités énormes de silex taillé. Mais on ne savait pas ce que c'était. Dans les années 70, il y a une fouille qui a été menée à cet endroit. Et au cœur desquels on a trouvé aussi une quantité invraisemblable de silex taillé, il y en a 10 ou 12 000. Mais comme c'est en plein air, sur une terrasse alluviale, il n'y a aucun os qui est conservé, aucun objet en bois de Rennes, pas de faune, rien. Donc rien que sur le silex, comme je vous l'ai dit, c'est très difficile de caractériser une culture. Et en plus, on ne peut pas faire de datation, puisque les datations, on ne peut les faire que sur des matériaux organiques. Donc, problème. On a pensé à un moment que c'était du gravétien, donc très ancien. On a proposé ensuite que ce soit du magdalénien supérieur, parce qu'il y avait beaucoup de lamellas d'eau. Et en fait, c'est du magdalénien inférieur, ce qui a pu être démontré récemment. Parce qu'au début de cette année, je me suis aperçue que sur le site, il y avait une maison en ruine et que son propriétaire, en fait, avait fait creuser la maison pour en construire une nouvelle. Donc, évidemment, je me suis précipitée pour regarder et évidemment, il y avait partout du silex taillé. Et donc, j'ai alerté immédiatement le service régional de l'archéologie, qui s'est déplacé immédiatement et qui a organisé très vite une petite... opération de sauvetage avec quelques archéologues, des jeunes archéologues très compétents qui ont pu faire une intervention sur cette surface-là que vous voyez. Et donc on a pu faire des coupes complètes vers le milieu, là où il y a une tache blanche, on a fait un petit sondage d'un mètre 50 de côté. Et effectivement, on trouve un niveau avec énormément de silex taillé, des nucléus et tout ça. Et l'étude de ce matériel, en particulier le travail sur les petits nucléus et les lamellas d'eau, il y a quand même 1200 nucléus et 2000 lamellas d'eau. C'est monstrueux. C'est un travail monstrueux. Et l'étude de ces nucléus et l'étude de ces divers types de lamellas d'eau qui sont aussi presque toutes, pratiquement toutes, destinés à des armatures, à être mis sur des armes de chasse. On a pu montrer, là aussi, qu'il y avait un choix, un travail qui avait été fait pour obtenir des lamelles selon des longueurs bien délimitées. 15 mm, 20 mm, 25 mm. Et que tout le silex et les nucléus avaient été travaillés dans le but d'obtenir de ces lamelles à dos de dimensions extrêmement précises. Alors, toute l'étude sur les 1200 nucléus et les 2000 lamelles à dos a été faite par mon collègue Gerard Bozinski, qui était venu faire une conférence ici, qui au début, quand il a vu, a dit « je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est ». je ne connais pas. Et finalement, en comparant le mode de débitage, les produits, etc., on se rend compte que c'est exactement identique à ce qu'on trouve à la Brigandine. Donc c'est du magdalénien inférieur. Et vu l'énormité du site qui couvre un hectare au moins, au confluent du ruisseau du Gouir et de l'Aveyron, il n'est pas impossible que ça ait été le camp de base à partir duquel les gens se sont engagés dans la vallée de l'Aveyron et sont allés camper à Gandil. C'est pas invraisemblable. Donc pour l'instant, la maison est en train de se construire. Je passe devant, ça monte. Mais on sait qu'il y a un site et c'est protégé. Et c'est quelque chose d'absolument, c'est un site exceptionnel aussi. Donc à la suite de cette promenade, on va essayer de faire un petit peu le tri et de mettre un peu dans l'ordre. Alors vous avez ici les sites que j'ai essayé de vous caler dans l'ordre chronologique, avec toutes les dates qu'on connaît. Donc pour le magdalénien inférieur, il y a la Brigandine qui ne comporte pas d'autres cultures, donc qui était occupée entre 17480 et 16070. L'Abri-la-Faille, il y a du magdalénien inférieur parce qu'il y a des objets qui s'y réfèrent, mais il faut le démontrer et le publier. L'occupation principale, c'est le magdalénien moyen, avec la sépulture de la femme, et probablement une occupation qui a continué un peu jusqu'au magdalénien supérieur. La grotte de la Madeleine, la grotte elle-même, c'est du magdalénien moyen uniquement. Mais il est probable que le site de... Il est sûr d'ailleurs que le site de Pléder, qui est au pied, a été occupé lié au magdalénien supérieur. Donc il est très vraisemblable que la grotte, même si elle a été ornée au magdalénien moyen, ait servi de lieu de rencontre, de lieu de culte probablement, pendant tout le magdalénien. L'Abri-Plantade, il y a une petite occupation probable au magdalénien inférieur, une occupation bien marquée au magdalénien moyen, et aussi une très grande, grosse occupation au magdalénien supérieur. Et peut-être de l'Asilien, parce que, en fait, comme la séquence a été tronquée au cours des premières fouilles, il n'est pas impossible que, comme à Montastruc, il y ait eu de l'Asilien, mais on n'en sait rien. À Montastruc, on a certainement une occupation au magdalénien inférieur, puisque en dessous de la couche du magdalénien moyen qui a donné ses œuvres d'art magnifiques, on a d'autres occupations antérieures, très pauvres, et qui semblent correspondre effectivement à un magdalénien inférieur. Et à Montastruc, on a le magdalénien moyen, le magdalénien supérieur, et on va jusqu'à l'Asilien. Mais on ne va pas plus tard. Il n'y a aucune occupation postérieure à l'Asilien dans la vallée de l'Aveyron. La grotte du Courbet, on sait qu'on a une occupation au magdalénien moyen et au magdalénien supérieur, mais sans doute pas au magdalénien inférieur. Et à Fontalès, il n'y a que du magdalénien supérieur, et il y a quelques vestiges qui permettent peut-être de penser qu'il y a eu de l'Asilien, mais en fait, on n'en sait rien. Alors ce qui est assez frappant, c'est que dans la vallée de l'Aveyron, donc, on a tout le magdalénien, et ce qui est aussi passionnant, c'est que rien que sur les quatre sites de Bruniquel, donc sur 250 mètres de long, il y a tout le magdalénien depuis 17500 jusqu'à 12700. C'est une configuration absolument exceptionnelle. L'Asilien n'est pas présent, et les cultures antérieures au magdalénien sont très peu représentés dans la vallée. On a un peu de gravétien et de l'orignacien, mais on en connaît deux, peut-être trois sites, et qui ne sont jamais au fond de la vallée comme le magdalénien, mais toujours sur les hauteurs. Donc la vallée de l'Aveyron possède un ensemble de sites majeurs pour la connaissance du magdalénien, puisque toutes les facs du magdalénien y sont représentées, que l'art y est extrêmement riche, l'art pariétal avec la grotte de la Magdeleine, l'art mobilier avec les merveilles qu'on a pu trouver au Courbet, à Montastruc et ailleurs. On a de nombreuses représentations féminines, qui est un caractère propre aussi à la vallée de l'Aveyron. Les autres centres où on retrouve des représentations féminines bien groupées, c'est le le Périgord, et on en a aussi en Suisse. Mais par exemple, il n'y en a pratiquement pas dans les Pyrénées. Donc il y a des centres comme ça qui sont très éloignés les uns des autres, on ne sait pas pourquoi. En Suisse et en Rhénanie aussi. Il y a des sites aussi avec de nombreuses plaquettes. Tous les sites n'ont pas des plaquettes. À Plantade et à La Faye, il y en a 2 ou 3. À Fontalès, il y en a 80. À Montastruc, il y en a 100. Donc c'est aussi une particularité. Très important aussi, une sépulture dans le Magdalénien moyen, très très bien datée. Et puis, ce qui est important aussi qu'on voit par des rapprochements entre certains objets, ça se voit aussi dans la nature des silex qui ont été taillés. Il y en a 95% qui viennent de la région, puisqu'il y a dans la région, il y a les silex du Verdier, à une vingtaine de kilomètres d'ici, qui ont été très étudiés. Mais on sait qu'ils se procuraient du silex dans des régions très éloignées, près du Pays Basque, en Chalosse, et jusqu'en Périgord, dans un rayon d'environ 200 à 300 kilomètres. Donc ce qui s'explique aussi, puisque c'est quand même une zone de passage entre le Périgord et les Pyrénées. Donc c'est vrai qu'on a ici un ensemble de sites absolument exceptionnels, et c'est pour ça que j'ai souhaité vous en parler ce soir. Je vous remercie de votre attention. Alors, si, comme on l'a dit avant, si vous avez des questions à poser ou des choses à vous faire préciser, n'hésitez pas.
J'ai une question. Comment se fait-il qu'on ait trouvé une sépulture et une seule ?
Ah, les sépultures paléolithiques sont très peu nombreuses. On en connaît en réalité très très peu.